Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Avec l'été, on vous propose de réécouter certains de nos épisodes préférés de Passage. Vous n'aviez peut-être pas eu le temps d'écouter Serial Mytho, une série de Mathieu Palin en 4 épisodes. Une histoire de mythomanie vertigineuse qui vous laissera sans voix. Bonne écoute!
Louis.
C'est l'histoire de n'importe quelle rencontre. On se fait une idée de l'autre, et chaque mot, chaque geste affine cette idée, la développe, la transforme. On se fait une idée de l'autre, et les jours passant, parfois les années, cette idée épaissit. Elle devient l'un des piliers du réel. Voilà qui est l'autre, et voilà le réel dans lequel je vis. Que se passe-t-il quand cette idée s'effondre? Comment se refaire alors une idée du réel? Voici Serial Mytho, une série de Mathieu Palin. 4 épisodes sur le mensonge, la trahison et l'amitié. Épisode 3. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast d'Histoire Vraie. Bienvenue dans Passage.
Et là, je me souviens de quelque chose que m'a dit Soraya. Elle me dit à un moment donné, tu sais, Elodie, on n'est pas les seuls. J'ai encore une liste, hein. J'ai 50 numéros à appeler. Hein. Comment je trouve le numéro de cette fille? Comme elle a une société, c'est très facile, on n'a qu'à aller sur société.com et faire un annuaire inversé. Et on tombe directement sur son numéro de téléphone, donc j'ai appelé cette fille. Et là, elle me dit, oula, qui est votre mari? Je lui dis, c'est Titi. Elle m'a dit, oh putain. Pendant qu'il m'écrivait H24, en réalité, commençait une relation avec cette fille.
À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu restes ferme sur ta décision. J'étais vraiment très, très, très attachée à cette personne et à cette relation. Aussi merdique soit-elle, hein, c'est vraiment indépendant l'un de l'autre, l'amour que vous pouvez avoir quelqu'un.
Le jour de mon mariage, il a quand même eu une petite pensée pour cette fille, puisqu'il a envoyé un petit message à 20 minutes de m'épouser, en lui disant « Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais la gueule? Je suis au mariage d'un pote, j'aurais aimé que tu viennes avec moi, ça aurait été sympa. » Et il lui envoie une photo de l'après-midi, de lui en costume, à notre mariage. Extraordinaire. Voilà, donc là, moi je dis bravo l'artiste. Hein. Je viens de comprendre à ce moment-là que j'ai épousé le roi des queutards. Moi qui pensais sincèrement avoir donné une chance à un enfant meurtri, que j'allais l'aider à le réparer, qu'il avait regretté ce qu'il avait fait avec cette fille. Pour moi, voilà, il passe de quelqu'un de plus ou moins correct à un enculé, quoi. Donc là, je lui dis, tu as 6 heures pour faire tes affaires. Il est midi, 18 heures, tu n'es plus là. Comme ça, c'est clair. Il est arrivé évidemment à 18 heures, alors qu'il devait faire ses affaires pour 18 heures. Il les a faites devant moi. Il était là, moi j'étais assise exactement là, à le regarder, à gesticuler dans tous les sens, à se justifier, à crier, à vociférer. Il faisait aller-retour entre la chambre et ici, jeter des sacs. Il me dit, oui, en fait, t'as jamais accepté ma fille, c'est pour ça que tu me cherches des excuses, mais la mytho, je l'ai jamais baisée, mais c'est une pute, mais n'importe quoi, mais de quoi tu me parles. Je lui dis, non, mais j'ai des preuves, mais t'as quoi comme preuve, mais t'as rien comme preuve, mais c'est une mytho, tu la connais pas, c'est une nymphomane, blablabla, blablabla. Mais là, j'ai Julie en tête, mais je peux pas lui en parler encore. Mon grand-fils arrive au moment où mon mari est en train de faire ses affaires et il se demande ce qui se passe. Il dit, mais c'est quoi ce bordel? Donc je dis, bah, écoute, je laisse ton beau-père t'expliquer puisque moi, je préfère me taire parce que là, je vais vraiment gros sur la patate. Il dit, oui, ta mère a fait la mytho, elle dit qu'elle a accepté ma fille. En fait, elle n'a jamais accepté ma fille. Aujourd'hui, elle trouve plein d'excuses pour me quitter parce qu'en fait, elle n'arrive pas à se faire à la situation. Elle est en train de raconter que j'ai eu des relations avec un tel et un tel. Alors, c'est pas vrai. Et mon fils me regarde. Il me dit, attends, je comprends pas, maman, quelle fille, on parle de quoi là? Et moi, j'avais caché à mon aîné. J'ai caché à tout le monde, à tous mes enfants. Et je dis, bah justement, écoute-le, il a une fille. Et mon fils, Candide, me dit, bah, maman, t'es gonflée, il nous accepte tous les trois, sans condition. Et toi, t'acceptes pas sa fille, tu l'as découvert quand qu'il avait une fille? Je dis, bah après le mariage. Il dit, bah voilà, il a pas osé t'en parler avant parce qu'il avait peur de ta réaction. Je suis là, mais non, t'as pas compris. Demande-lui quel âge a sa fille plutôt. Et là, il le regarde, il dit, à quel âge ta fille? Il dit, ma fille, elle a 7 mois. Il dit, bah, c'est un bébé, maman. Tu vas rejeter un bébé? Et là, je dis à mon fils, allô, tu fais le lien, on est ensemble depuis 2 ans et demi. Il a un bébé de 7 mois. Il dit, oh, le con. Donc, ils commencent à s'embrouiller tous les deux. Et je m'en vais. Finalement, je leur dis, bon, vous savez quoi? Moi, je vais partir. Ça vaut mieux pour tout le monde. Je dis à mon fils, tu restes là parce que je veux être certaine qu'il laisse bien les clés. Et je suis partie donc chez cette fille, en banlieue parisienne, qui m'a accueilli les bras grands ouverts en me disant, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et là, je lui dis, bah, avant tout, lui me dit qu'il n'a absolument jamais eu de relation avec vous. J'ai dit, moi, j'ai besoin de démêler le faux du vrai. Elle me dit, ah, bah, moi, j'ai toutes les preuves, il n'y a pas de souci. Et là, elle me montre des photos. Donc là, il n'y a aucun doute. Je vois des photos, je vois des vidéos, enfin, je vois des sextapes, hein, carrément. Hein, on va parler clairement. Je vois des choses qui me font très, très mal au cœur. Et puis, je vois des dates, surtout, des photos datées, des sextapes datées. Et là, je me dis, elle ne ment pas. Puisque à cette date-là, j'étais bien avec lui et je me rends compte qu'en plus, la vidéo porno qu'il lui a envoyée, eh ben, c'était le jour où j'étais en train de me faire opérer de mon grave problème de santé. Là, je me dis, putain, on parle de mariage. Je me fais opérer. Il fait cette vidéo le soir, il dort avec moi à la clinique en me disant, je peux pas te laisser toute seule. Et là, je me dis, ouais, le mec, en fait, il est fou. Je me dis, le gars est dingue. Donc moi, il m'appelle évidemment toute la soirée. Non, chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. Il se met à pleurer. Et je lui dis, non, mais bon, là, si tu veux, j'ai reçu des vidéos qui sont vraiment sans équivoque. Hein, je te passe les détails. Non, je veux voir ce que t'as reçu, donc je lui envoie. Alors la scène, elle est quand même assez cocasse parce que je suis chez cette fille, sur son canapé. On a nos deux téléphones sur la table basse. Donc moi, je viens de raccrocher avec lui qui pleurait. Il pleurait, enfin, vraiment à chaud de larmes. Enfin, on entendait qu'il pleurait. Et là, il appelle cette fille, et là, il pleure plus, et l'insulte. Espèce de grosse pute, toi, t'envoies des vidéos comme ça à ma femme, je vais te fumer. Et il me rappelle 2 minutes après, en pleurant. Il a rappelé après pour l'insulter à nouveau. Je comprends qu'en fait, il a une quadruple personnalité.
Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo fait suite à une première vidéo que je vous remets juste ici. Donc elle date d'il y a un an où je vous expliquais comment sortir d'une relation toxique. Je vous présente ma copine Elodie, qui est devenue ma copine. Bonjour. Et du coup, on va pouvoir vous raconter vraiment ce qui s'est passé. Toi, t'en as eu marre, t'as voulu affronter tes peurs et oui. T'as fait le détail de la facture téléphonique et t'as relevé les appels qui étaient récurrents, qui duraient longtemps, etc. Et donc, tu es tombée sur Julie. Donc je vous présente Julie. Qui est, on n'est pas des numéros, mais qui est arrivée du coup en 4e position. Donc là, on rigole parce qu'en fait, très très vite, on s'est liés d'amitié, on est restés solidaires. Ouais. Vous avez vu, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on est partis au Grand Bornand ensemble. On est partis, toi et moi, on est partis à La Réunion. On a prévu de partir au Maroc. Bref, c'est une vraie amitié et on peut se dire que Avec toutes les choses mauvaises qu'il a faites, il en a bien réussi une, c'est de pouvoir nous faire nous rencontrer et être amis.
Ces filles-là sont régulièrement chez moi, on échange. Julie n'est pas bien, mais elle arrive vite à reprendre le dessus. Donc, on fait face ensemble. Voilà, on parle de lui, évidemment, on essaie de comprendre comment on a pu se faire avoir. Et avec Julie, on décide comme ça un soir, on s'emmerde. Et on décide de faire la facture téléphonique.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces factures de téléphone, c'est 5 ou 6 pages de numéros, quoi. Donc, plein de numéros différents. Il y a ceux qui sont récurrents. Mais il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on commence à appeler les plus récurrents où les heures tardives peuvent paraître suspectes.
Puis là, bah, y a beaucoup de femmes hein, quand même. Il y en a beaucoup. Alors celles qui ne veulent pas parler, celles qui, dès qu'elles entendent la voix d'une femme, raccrochent, celles qui te disent, qu'elles ne veulent pas du tout avoir d'histoire. Et puis un ou deux hommes hein, quand même. 3-4 heures du matin, j'interroge un homme. Je lui dis, t'es qui par rapport à mon mari? C'est qui ton mari? C'est lui. Ah, il est marié, lui. Elle est une femme. Je sais pourquoi, tu le connais bien? Un peu, ouais. Je lui dis, mais tu le connais bien comment? Bah rien, rien. Donc on comprend qu'il a eu beaucoup d'autres relations, et puis les langues se délient. Les langues se délient, ça commence à parler à droite, à gauche. Le mec qui dit, de toute façon, c'est un queutard. Il a toujours eu ce besoin effréné d'aller à droite, à gauche. C'est quelqu'un qui ne sait pas rester fidèle. Quand il part en stage, ses chambres d'hôtel sont toujours pleines. Quand il part en gala, il se fait plaisir. Lui qui me dit qu'avant un gala, pendant un mois, il doit rester sans faire l'amour parce que l'histoire de flux sanguin, je sais pas quoi, enfin c'est une technique de boxeur.
Moi, je suis une ancienne boxeuse. Je l'ai rencontrée lors d'un stage d'équipe de France. J'arrivais, moi, tout juste dans le circuit de la boxe. Je connaissais personne. Et en fait, notre regard s'est croisé lors du stage. Il m'a tout simplement souri. Et là, je l'ai remarqué à ce moment-là. C'est son sourire vraiment qui m'a interpellée. Donc, j'ai compris rapidement qu'il était intéressé par moi. Et ça s'est terminé donc sur un simple bisou en fin de championnat. Et on s'est revus après régulièrement. C'était pour moi quelque chose de sérieux. J'ai entendu une petite rumeur sur un stage d'équipe de France où j'étais conviée également, où j'ai pas pu participer. Et il y avait eu un rapprochement avec une autre fille. Donc ça a été mon premier doute. C'était au bout de 6 mois de notre relation. Pour moi, c'était clair que j'aurais plus jamais confiance en lui, même si j'acceptais de le croire sur ce premier faux pas, on va dire. Je m'étais mis une barrière dans ma tête en me disant que je ferais jamais ma vie avec lui. Mais je suis quand même restée 5 ans. Et lorsque je lui ai annoncé que je venais sur Paris, il a été surpris, pas dans le bon sens. En tout cas, moi, je ne l'avais pas perçu comme ça. J'en ai pas fait de cas quand je lui ai annoncé, mais avec du recul, je comprends mieux pourquoi il était, je vais presque dire, déçu d'apprendre que je venais sur Paris, parce que j'allais lui casser tout ce qu'il avait construit autour des mensonges. En fait, j'allais pouvoir découvrir plein de choses. On est partis ensemble en Thaïlande. Il conduisait un scooter, j'étais derrière. Et on s'est fait arrêter par la police thaïlandaise. Et il demande le permis de conduire. Je l'ai vu se décomposer. Et j'ai pas compris pourquoi, en fait, il était, qu'il était pas bien, qu'il était blanc. Et par chance pour lui, la police a été appelée sur une urgence. Ils sont partis. Il n'a pas eu le temps de dire qu'il n'avait pas le permis. Sinon, je l'aurais su beaucoup plus rapidement. Et dès que la police est partie, il m'a demandé de conduire. Donc moi, j'avais mon permis voiture et permis moto. Donc, ce n'est pas gênant. Donc, j'ai conduit. Et tout le long du séjour, c'est moi qui l'ai trimballé partout. Et arrivé sur Paris, j'ai cherché s'il avait le permis, donc je regardais dans ses papiers, j'ai jamais trouvé de permis, jusqu'au jour où j'ai insisté et qu'il m'avait avoué qu'il avait jamais passé son code ni son permis de conduire. Il y avait très peu de personnes qui connaissaient ma relation avec lui. J'ai jamais voulu le présenter à mes parents parce que pour moi, je savais que c'était pas quelqu'un de fiable. Il y avait uniquement ses collègues de boxe qui savaient qu'on était ensemble et quelques-unes de mes amies, mais uniquement dans le milieu de la boxe. J'ai eu le droit au bouquet de fleurs, j'ai eu le droit au pardon, j'ai eu le droit aux larmes, j'ai eu le droit aussi à des douleurs au cœur parce que ça y est, ça lui réveillait ses problèmes cardiaques lorsque je voulais le quitter.
Donc moi, je rappelle ma psy et je lui en parle. Donc j'avais arrêté ma psychothérapie et je lui en parle parce que juste avant que je découvre cette vérité-là, on avait pris rendez-vous au cabinet dans lequel on était suivis tous les deux par deux psys différents avec la troisième psy du cabinet qui, elle, faisait des thérapies de couple. Et on avait décidé, pour recréer du lien, de passer par une thérapie de couple. Il avait eu son premier entretien et moi, j'allais avoir le deuxième. Et donc j'ai appelé à mon cabinet en demandant à ma psy de bien vouloir avoir la gentillesse d'annuler le rendez-vous avec la psychothérapeute de couple, et je lui explique pourquoi. Elle me dit, est-ce que vous pouvez venir lundi matin? Faut absolument que je vous parle. Je lui dis, oui, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je pense pas avoir besoin de vous à nouveau. Elle me dit, ça, vous le saurez dans le futur, mais en tout cas, on a levé le secret médical. Moi, j'ai parlé avec le psy qui le suivait, et avec donc, la psy que vous deviez voir. Elle me dit, vous êtes en danger, hein. Faut vraiment partir de cette relation, faut le mettre dehors. Je l'ai mis dehors, elle m'a dit, ouf. Parce qu'en fait, il est atteint de multiples pathologies. Voilà, je vous le dis aujourd'hui, il ne s'est absolument jamais fait violer. Parce que moi, j'en avais parlé à ma psy. Elle me dit, c'est absolument jamais fait violer. Il est venu que 3 fois chez le psy. Je lui ai dit, mais c'est impossible. Je lui ai dit, moi, je le déposais. Je l'attendais la plupart du temps. Et puis, il m'a ramené des factures. Elle me dit, non, je vous assure qu'il ne l'a vu que 3 fois. Et j'ai remarqué plus tard, en regardant la facture téléphonique, effectivement, il passait régulièrement 45 minutes au téléphone avec plusieurs personnes. La seule question qui me taraudait, en réalité, c'était « Mais pourquoi tu m'as épousée? Pourquoi t'es allée jusque-là » Et la seule réponse, « Parce que je t'aimais, je n'aime que toi, j'ai jamais eu envie de me marier avec personne d'autre que toi. » Je lui dis « Mais tu savais que j'avais des enfants que t'allais leur faire du mal ?» Et là, il peut rien me répondre. Il peut rien me répondre du tout. Et quand j'apprends tout ce que j'ai appris après, les Soraya, Sophia, enfin, toutes les autres filles que j'ai eues au téléphone, plus les dernières là qui m'ont appelée après la rentrée, je me dis qu'en fait, non, le mec, il se calmera jamais.
Moi, je m'appelle Sophia, je suis de Montpellier, donc je suis une vraie Montpelliéraine hein, depuis toujours. J'ai 33 ans et j'ai rencontré Titi dans les années 2005-2006. Alors en fait, c'est pas moi qui l'ai rencontré directement. À l'époque, il y avait un site de rencontre, c'était chat.com ou chatch.com, je me souviens plus. Et en fait, ma cousine, elle allait souvent sur ce site-là. Et ma cousine, il faut savoir, elle adore les Antillais, les Métis et tout. Bon, elle est beaucoup plus jeune que moi. Hein. Elle est tombée sur le profil de Titi. Et elle a commencé à parler avec lui et tout. Bon, ça, ils ont bien accroché et tout ça. Mais sauf qu'elle a trouvé un peu trop âgé pour elle. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que, elle m'a dit, ouais, Sophia, j'ai rencontré un gars, il pourrait te plaire et tout. Ben, si tu veux, je te donne ses coordonnées, les super. Ça fait un moment que je parle avec et tout sur les réseaux. Elle me dit, en plus, il se déplace souvent à Montpellier pour la boxe et tout. Franchement, je vais te passer son truc, parle avec lui à l'occasion et tout ça. Donc, moi, en fait, c'est parti d'une rigolade. Hein. On a commencé à discuter tous les deux et tout. Mais franchement, sans plus. Et une fois, j'avais prévu d'aller un week-end avec des copines à moi sur Paris. Et donc, du coup, je l'ai contacté. J'ai dit, écoute, ça tombe bien, je vais passer, je vais venir un week-end et tout ça. Si tu vas, à l'occasion, on pourra peut-être se rencontrer. Je vais faire plus connaissance avec lui. En plus, il me plaisait quand même physiquement. Il était super sympa. Alors, le mec, il était souriant. Franchement, on lui donnerait... mais on croirait qu'un ange, quoi. Et donc, du coup, je l'ai appelé et c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. C'était un hôtel Ibis, si je me trompe pas. Ouais, Hôtel Ibis au Stade de France. Et en fait, je le vois arriver avec plein de gars, quoi. Et on le dépose. Donc, il me dit, ouais, par contre, j'ai pas ma voiture, je l'ai prêtée à mon collègue et tout. Je suis obligée de rester là la nuit parce que j'habite loin et je pourrais pas rentrer. Donc, je dis, ouais, mais bon, fallait me prévenir avant quand même. Moi, j'ai pris une chambre, mais je suis pas toute seule dans la chambre, je suis avec ma cousine. Et donc, moi, je vais lui demander si ça la dérange pas, mais moi, ça me dérangeait parce qu'on se connaissait pas, on s'était jamais vus. Et ma cousine, elle me dit, écoute, Sophia, franchement, fais ce que tu veux. En plus, si c'est un pote à toi, parce que moi, j'ai dit que c'était un pote à moi que je connaissais, mais j'ai pas dit que je l'avais jamais vu. Et donc, du coup, il est resté avec moi. Et de là, on a commencé à s'appeler vraiment tous les jours. Tous les jours, les messages. Moi, j'aimais bien sa personnalité, puis il vendait du rêve quand il parlait. C'est le mec, tu te sens en sécurité, comment il te parle, tu te sens comme une princesse, quoi.
l'époque, moi, j'étais encore chez mes parents. Et j'étais jeune, je crois que j'avais 18 ans. Ouais, 18 ans. Donc déjà, je venais sur Paris en cachette. Je disais pas à mon père. Donc du coup, c'est moi qui ai monté. Et bon, c'est vrai que je travaillais pas encore, j'avais pas les moyens, j'étais encore une gamine, quoi. Moi, je payais que mon billet de train. Et après, bon, là-bas, sa maman, elle m'hébergeait. Donc sa maman aussi, hein, ma belle-fille, je t'adore. Et Titi, il est à fond sur toi. Il a jamais été comme ça avec une autre fille. Et moi, il m'a jamais ramené d'autres filles à la maison. Ah, sa mère, c'était un ange. Et tu vas à la maison quand tu veux, et nanani, voilà. Et tu viendras avec nous en Guadeloupe, pendant les vacances. De toute façon, ici, t'es comme chez toi. Moi, je te considère comme ma fille. Voilà, c'était vraiment quelqu'un de... Enfin, tu te dis, c'est pas possible que la personne... Enfin, qu'elle te dise ça et qu'elle pense pas, quoi. Et donc, sur sa vie, il m'a toujours dit que son papa, donc c'était un Sénégalais. Et son nom de famille, c'était Silla. Et que son papa, il était mort. Que sa mère, c'était une Brésilienne guadeloupéenne, qu'elle avait un cancer depuis longtemps, cancer du sein, je crois. Donc, elle était vraiment, enfin, elle était malade, quoi. Elle était obligée de rester habiter avec sa maman et s'occuper beaucoup d'elle. Sauf que moi, à cette époque-là, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, j'ai ma cousine qui travaille à la mairie de Montpellier, donc elle est au service des états civils. Et lui, il m'avait menti sur son âge. J'avais la bonne date de naissance, hein, et le bonjour, mais il m'a toujours menti sur son année de naissance, donc un an. Enfin, il m'a menti sur un an, donc je ne sais pas c'est pourquoi. Non, ça change rien pour moi, mais il m'a toujours dit qu'il était né en 81, alors qu'il est né en 80, parce que moi j'ai sorti son acte de naissance, et donc quand je lui ai montré quoi, la preuve, il m'a dit ah non, mais c'est une erreur, ils se sont trompés, bon j'ai jamais rectifié, j'ai dit d'accord, ok, sur l'acte de naissance, je sais que c'est pas possible parce que moi je travaille aussi à la mairie, mais bon, si tu le dis c'est pas grave, surtout que par la suite je me suis vraiment réellement attachée à lui, je suis vraiment tombée amoureuse, ça veut dire que je voyais plein de choses et j'entendais plein de choses et j'ai vu de mes propres yeux. Et en fait, je me voilais la face. Je me voilais la face parce que ben, j'étais déjà très jeune. C'était ma première vraie histoire, quoi, entre guillemets. Et puis, c'est quelqu'un de vraiment manipulateur. Ça veut dire, si tu vois quelque chose de bleu, ben, lui, il va te dire c'est noir. Ben, tellement, toi, tu vas croire après que, enfin, ce qu'il dit, quoi. En fait, je me voilais la face. Donc, à chaque fois, je pardonnais. Et puis je passais dessus, au-delà, quoi. Par exemple, quand je dormais chez lui, il partait au sport. Ça m'arrivait de fouiller dans ses affaires et puis de découvrir des photos. Des photos avec des nanas, limite pornographiques. Bon, ça, il ne sait pas. Par contre, je ne lui ai jamais dit que j'ai fouillé dans ton sac et j'ai trouvé des photos. Et par exemple, bah, des préservatifs, il ne les utilisait pas avec moi. Et dans ses affaires, bah, j'ai trouvé à chaque fois des préservatifs. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Sinon, à l'époque, j'avais son code aussi secret de répondeur. Je ne sais pas si on peut toujours le faire, d'ailleurs, maintenant. Mais je pouvais écouter ses messages vocaux à distance. Donc, par exemple, c'était « Ouais, bah, allô, bébé, hier soir, t'es pas rentrée à la maison, je t'ai attendue. » Donc, c'était toujours des prénoms et des nanas différentes. Donc, dès que je l'appelais, je lui disais « Ouais, c'est quoi ça ? J'ai entendu des messages. » « Mais tu es complètement folle, mais moi, j'ai pas de message, mais espèce de folle. Mais vas-y, re-essaye, tu verras, tu te fais des films. » Et dès que j'appelais derrière, il n'y avait pas de message, quoi. Bah, c'est que des petits trucs comme ça, quoi. Plusieurs fois, bah, j'ai mis un terme à notre relation, par téléphone toujours, parce qu'on n'était pas, à côté. Et par contre, là, j'avais droit à des menaces. Donc, je vais venir et tu vas voir ce que je vais te faire. Et il appelait à 4h du matin chez ma grand-mère. Il faut savoir que ma grand-mère, elle est âgée. Hein. Donc, il ne nous laissait pas dormir. Toute la nuit, le téléphone, il sonnait. Sinon, c'était des menaces comme quoi il allait se suicider. Alors ça, il me l'a fait plein de fois. De toute façon, si tu ne te remets pas avec moi, je vais venir à Montpellier, je vais me jeter sous une voiture, je vais aller chez ta famille. Tu vas voir, je vais montrer tes photos parce qu'on s'envoyait des photos. Hein. À l'époque, on était en couple. Donc, je sais pas, il n'y avait pas de tabou entre nous. Donc, on s'envoyait des photos de tout genre, quoi. Et puis, il m'a dit, bébé, écoute, ce numéro de téléphone-là, il faut que tu l'effaces parce que je vais rendre la puce à mon collègue. Je me suis disputée avec lui parce que moi, je suis fichée, je ne peux pas prendre d'abonnement. Donc, mon collègue, il avait pris un abonnement à son nom. Et là, je me suis embrouillée avec lui. Donc, du coup, il va récupérer sa puce. Je vais t'envoyer un autre numéro, ce sera ma puce à moi. Donc, ce numéro-là, surtout, efface-le et n'appelle plus dessus. Donc moi, ok, ben, y a pas de souci, bébé, t'inquiète pas, ben, je vais effacer le numéro, quoi, y a pas de problème et tout ça. Sauf qu'entre-temps, je sais pas, moi j'étais occupée à faire autre chose et tout ça. Et le soir même, le réflexe, ben, j'ai dit je vais l'appeler. Mais sauf que, comme une conne, j'ai oublié d'appeler sur son nouveau numéro qu'il m'avait envoyé entre-temps. Donc moi, j'ai rappelé sur l'ancien. Et de là, c'est une fille qui me décroche. Donc elle me dit « Allô ?» Et je lui dis « Ah, je me suis trompée. » Elle me dit « Peut-être pas. Vous cherchez à joindre qui ?» Je dis ben, « Je cherche à joindre mon chéri. » Elle me dit « Il s'appelle comment ?» Je dis ben, « Il s'appelle Titi. » Et de là, elle me dit « Ah ben j'insiste parce que tu n'es pas la première à appeler. » Ok ? Je dis, comment ça, je suis pas la première à appeler? Je dis, non, mais je pense que c'est vraiment une erreur parce que, il m'a dit que, en fait, il s'est disputé avec son copain. La puce ne lui appartenait pas à la base. Et, il m'a renvoyé un numéro. Elle me dit, non, mais il a dit cette version-là à tout le monde. Elle me dit, mais en fait, c'était mon mec. Et la puce, c'est moi qui lui a prise à mon nom. Elle me dit, t'étais avec lui ce week-end? Elle me dit, jusqu'à quand? Je dis, ben, moi, j'ai repris mon train, je suis rentrée sur Montpellier le dimanche soir. Elle me dit, ah, ok. Elle me dit, parce qu'après, moi, le dimanche soir, très tard dans la nuit, il est venu chez moi. Et j'étais pas si surprise que ça. J'avais même retrouvé une paire de, à l'époque, c'était les Converse, une paire de Converse roses, chez lui. Donc, je me suis dit, sa mère, elle va pas mettre ça. Je l'ai confrontée, mais, ah non, mais cette fille-là, mais en fait, j'ai pas voulu te le dire, mais c'est une ex à moi. À l'époque, j'avais pris cette puce, mais en fait, comme elle a su que moi, je me suis mise avec toi et que c'est du sérieux, ben, elle a les nerfs. Donc maintenant, elle veut me reprendre ma puce. Je lui dis, mais non, mais moi, j'ai cette preuve-là, t'étais là avec elle, parce qu'elle m'envoyait les textes, elle faisait des copier-coller de ses messages et tout ça. La fille, elle ne pouvait pas mentir, c'était pas possible. En fait, il est très fort. Enfin, moi, je sais pas si c'est moi qui est conne ou pas, mais j'avais toujours les preuves, mais je le croyais à lui, en fait, hein, au final. Donc après, je dis, bon, ben, c'est pas grave, allez, il m'a dit ça, c'est pas grave, je le crois à lui, c'est mon chéri, donc c'est lui qui a raison. Et d'ailleurs, il m'a fait effacer le numéro de cette fille-là et je l'ai plus jamais rappelé. D'ailleurs, j'aurais pas dû, j'ai été conne, parce qu'après, j'ai appris plein d'autres choses et elle m'avait mise en garde. Hein. J'ai jamais quitté, je le quittais une heure, il m'appelait je sais pas s'il pleurait pour de vrai ou il faisait semblant de pleurer, mais c'était des crises au téléphone. Et sa maman aussi à côté. Non, mais il faut pas, mais il ment pas, mon fils, je te promets, Soso, il t'aime, jamais il te trompera, réponds-lui, des trucs comme ça, quoi. Donc. Par contre, il faut savoir que quand je restais une semaine chez lui, et pendant une semaine, du matin au soir, quand il bossait pas et qu'il était soi-disant en vacances, on restait enfermé à la maison. Ou si on sortait très tard le soir, on prenait par exemple la dernière séance parce qu'on allait qu'au cinéma, hein, il m'a jamais sorti ailleurs. Bah, je pense qu'il avait peur de se faire montrer avec moi. Hein. Donc on prenait la dernière séance et par contre il y avait plein de cinémas à côté de chez lui, mais il m'a amené à des cinémas, ou même pour aller au McDo. On allait dans le 94 ou à je sais pas combien de kilomètres pour aller manger un menu, quoi. Et après, y a un autre événement aussi. J'étais revenue sur Paris, il y avait un gala de boxe. Et il me dit, par contre, c'est un collègue à moi qui va venir nous chercher. Donc son collègue, je me souviens très bien de son prénom maintenant, il s'appelait Ronald, si je ne dis pas de bêtises. Et il m'a dit, il va venir nous chercher, et par contre, surtout, je te préviens, il ne faut pas que tu dises qu'on est ensemble. Je dis, ah bon, et tout, pourquoi? Je sais pas. Il me dit, non, il ne faut pas que tu le dises, parce qu'avant de boxer, il ne faut pas que je dorme avec une fille, parce que mon entraîneur, il va me prendre la tête, et ce gars-là, là, qui va venir nous chercher, il est avec moi dans mon club, il va balancer. Il m'avait sorti un mytho, en fait. Donc, moi, ok, y a pas de problème. Je dis quoi? Il me dit, tu dis que t'es une copine. Ok, y a pas de souci. Et son pote dans la voiture, il commence à me dire, ça fait longtemps que tu connais Titi et tout. Je dis, non, je suis une amie, moi. Ah oui, il m'a dit, tu dis pas que t'es de Montpellier. Je dis, ouais, je suis de Lyon. Et donc, du coup, le gars, on arrive au gala de boxe et tout ça, et il s'assoit à côté de moi. Donc, moi, j'étais au milieu, Titi était d'un côté et son copain d'un côté. Et son copain, je pense qu'il a un peu flashé. Il commence à me dire, mais il n'y a rien entre vous et tout ça. Je lui dis, non, il n'y a rien. Enfin, je ne suis qu'une amie, quoi. Je suis une copine. Et il me dit, tu sais ce qu'on fait ce soir? Il me dit, pose Titi chez lui, là, dès qu'on arrive. Et il me dit, tu passes la soirée avec moi. Moi, je lui dis, non, je peux pas, parce que quand même, c'est sa mère qui m'héberge, donc je vais pas rentrer à je sais pas quelle heure, ça se fait pas, même par rapport à lui, quoi. Il me dit, non, mais on s'en fout. Il lui dit, Titi, ça te dérange pas, toi, si je l'embarque et tout, on va boire un verre et tout. Il dit, en plus, franchement, elle est trop charmante, tu m'as pas dit que t'avais des copines comme ça et tout. Là, tu vois, il tire une gueule à 300 km, serrer les poings, mais il disait rien. Il me dit, si tu veux, mais si tu veux y aller, moi, ça me dérange pas, tu veux y aller. Et moi, non, je vais pas y aller. En plus, demain, je pars, j'ai le train tôt et tout ça, donc j'essayais d'esquiver un peu et tout ça. Et son copain, il était vraiment insistant. Mais le pauvre, lui, il savait pas. Donc, on sort du gala, il nous redépose chez lui. Il me dit, t'es sûr, tu veux pas rester avec moi? Allez, s'il te plaît, viens, je te paye un verre et tout ça. Je dis, non, franchement, je suis fatiguée, je veux rentrer et tout ça. Dès qu'on est monté, j'ai eu droit à une crise. Et ouais, mais aussi, tu lui as laissé la porte ouverte et c'est à cause de toi et tu l'as allumé. Parce que sinon, il se serait pas permis de te draguer. Je dis, mais quand même, je suis avec toi. Tu le vois quand même que je l'ai pas allumé, quoi. J'ai rien fait. Je dis, après, lui, c'est un mec. Peut-être que j'y ai plus et il tente, quoi. Ouais, mais tu l'as pas remballé. Enfin, on a commencé à se prendre la tête. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. Donc, j'ai dit, ne crie pas, je vais crier plus fort que toi. Et je lui dis, mais tu m'insultes pas, tu te prends pour qui, moi, tu me parles pas comme ça et tout. En fait, on s'est embrouillé. Et de là, il m'a levé la main dessus. Il m'a mis une gifle. Maintenant, avec le recul, je me dis pas que c'est de ma faute, parce que j'ai grandi. Après, c'est sûr qu'il y a des choses à ne pas faire. Hein. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Titi ne supportait pas que j'ai des copains garçons. Il pensait que tous les gars étaient comme lui, je pense. Donc en fait, une fois, il m'hébergeait chez lui, qui me dit « Bébé, je suis invitée au mariage à un copain. Moi, je peux pas t'amener parce que c'est traiteur. » Donc tout est calculé et tout, mais t'inquiète pas, tu restes à la maison avec ma, il y a ma mère et tout ça, donc sa maman dormait dans la chambre à côté. Il me dit moi je reste pas longtemps, vers deux heures du matin, une heure maximum, je rentre à la maison. Il me dit donc je te laisse dans ma chambre, tu vois la télé, tu t'occupes, tu fais comme tu veux. Je lui dis bon ben t'inquiète pas, j'ai dit vas-y profite avec tes copains, de toute façon je suis là pour une semaine, on a le temps de profiter. J'ai dit en plus moi je suis KO, je vais dormir. Et donc, entre-temps, moi, à Montpellier, j'avais rencontré une personne par le biais d'une copine à moi, quoi. Mais franchement, c'était vraiment... Il n'y avait rien, quoi. C'était un pote. Et donc, ce pote-là, il m'envoie un texto le soir. Ben, coucou, ça va, une petite pensée pour toi. Mais franchement, vraiment amical, quoi. Il n'y avait rien de grave. Et donc, de là, ben, on commence à textoter. Donc, je lui dis, ben, tu sais quoi, en plus, je suis sur Paris. J'ai dit, donc, là, je suis chez mon chéri. Ben, je t'appelle, si tu veux, on essaie de se voir, boire un café et tout. Ça me fera plaisir. Et à un moment, je ne sais pas si mon téléphone n'avait plus de batterie ou si je captais plus. J'avais eu un souci avec mon téléphone. Donc, je lui dis, bah, attends, je te rappelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le fixe de sa maman et j'ai rappelé mon pote. Et bon, c'est vrai que c'était tard, il devait être minuit, 1h du matin. Et en fait, entre-temps, j'entends la porte, les clés tourner. Donc, moi, en panique, en plus avec son fixe. Donc, je lui dis, attends, je te rappelle. Enfin, j'ai coupé, quoi. J'ai dit, parce que si c'est ça, il va me taper une crise, quoi. Sauf que ce que j'ai fait, j'ai oublié de reposer vite le fixe dans le salon. J'ai pas eu le temps, en fait. Parce que lui est arrivé dans la chambre. Et donc, de là, il me voit. Et il voit le téléphone fixe de sa mère posé sur le lit. Et il me dit, ça va, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bah, écoute, rien. J'ai dit, je t'attendais. Il dit, comment ça se fait qu'il y a le téléphone là? Et sauf qu'entre-temps, mon ami, il rappelle sur le numéro. Donc, il y a le téléphone qui sonne. Et il me regarde, donc il y a un blanc, et il me dit, c'est le fils de ma mère. Il me dit, c'est qui? Je dis, non, mais c'est une copine. Et du coup, bah, lui décroche. Et en fait, de là, bah, il lui dit, ouais, t'es qui? Le gars, il dit, mais je parlais avec une amie à moi, Sophia. Il dit, ouais, mais t'es qui toi pour Sophia? Tu la connais d'où? Et le gars, il dit, bah, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, on a sympathisé. Il lui dit, ne la rappelle plus sur ce téléphone et tout ça, il raccroche. De là, j'ai même pas eu le temps de compter jusqu'à deux. Je me suis mangé une grosse gifle, mais vraiment, ma tête, elle a tourné 10 fois. Ben, je ne l'ai plus reconnu, en fait. On dirait que c'était le diable en personne. Après, ça a été des coups de tête, des coups de pied, des coups de poing. Il m'a étranglé, il m'a plaqué contre le mur. Et en fait, je criais tellement et je pleurais tellement. Alors ça, c'était vers les coups de 1h, 2h du matin. Enfin, je me retenais aussi parce que sa mère était dans la chambre à côté. Je ne voulais pas faire de bruit. Qui m'a fait sortir de la maison à moitié à poil. Donc, il m'a descendu en bas de chez lui. Et là, ça a continué. Alors là, par contre, il s'est vraiment acharné sur moi. Ça a duré toute la nuit. Ça a duré toute la nuit. Je crois qu'il m'a percé un tympan. J'entends plus d'une oreille. Et le lendemain matin, en fait, j'avais des ecchymoses de partout, quoi. J'avais la tête gonflée. Voilà. Et il m'a frappé, de 1h à 6h du matin. Et donc, moi, je criais, je m'en rappelle. Hein, je lui disais, ça y est, tu m'as tapé. Jette-moi mes affaires par la fenêtre si je t'ai manqué de respect. Juste laisse-moi partir, s'il te plaît, laisse-moi partir. Et là, non, tu partiras nulle part. Il m'a déchiré mon billet de train. Il m'a dit, tu pars pas, maintenant tu restes là. Tes affaires, je te les jette pas par la fenêtre et tu vas rester chez moi. En fait, il m'a séquestré après, hein, chez lui. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Et en fait, tellement qu'il m'a frappé, voilà. Et tellement que c'était des coups forts, parce qu'en plus, c'est un boxeur. Et moi, c'est vrai que bon, là, j'ai quand même les kilos en plus suite à mes deux enfants, mais j'étais vraiment quelqu'un de très menu. Pas très grande de taille, donc les coups, je les sentais vraiment, quoi. Enfin, il me frappait comme s'il frappait un bonhomme, mais vraiment. Alors, des coups de genoux, des coups de tête. Jamais de ma vie, on m'a frappé comme ça. Malgré ça, je suis quand même restée avec lui. Titi, c'était l'homme de ma vie. C'était le père de mes enfants. On allait se marier. Pour moi, il n'avait jamais eu de relation aussi longue avec quelqu'un. Et puis sa mère, ben, me disait que j'étais la première fille, quoi, qui venait à la maison. Donc, donc pour moi, c'était l'homme de ma vie, quoi. Jamais, même pas une seconde, j'ai pensé à le quitter. Malgré ça, hein. Et pourtant les coups, je les ai vraiment sentis. Hein. Et jusqu'à présent, franchement, j'en suis traumatisée, quoi. J'en suis traumatisée. Mais je suis restée avec.
Titi, le principal intéressé de cette série, a été contacté plusieurs mois avant sa diffusion. Et après réflexion, il a décidé de ne pas y participer. Il dit avoir tourné la page et ne pas vouloir rajouter de l'huile sur le feu. Il concède avoir été infidèle et avoir commis des erreurs de jeunesse. Mais il dément catégoriquement avoir jamais levé la main sur une femme.
Serial Mytho est une mini-série de Mathieu Palin pour le podcast Passage de Louis Média. Les enregistrements ont été réalisés par Mathieu Palin. Le montage a été fait avec l'aide de Julia Courtois, Capucine Rouault et Bénédicte Gilles. La musique a été composée par Thomas Rosès, qui a aussi assuré la réalisation et le mixage de ces épisodes. Louise Emerlé est productrice et Elsa Berthaud, attachée de production. La supervision éditoriale et de production a été assurée par Maureen Wilson et Mélissa Bounois. Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez Passage, le podcast d'histoire vraie de Louis Média. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.